La midinale, la matinale libre, curieuse et impertinente de Radio Piquet.
Bonjour, bonjour. Bien, on a un peu de retard, mais nous voilà enfin avec vous. Donc c'est parti pour cette cinquième saison. C'est la deuxième midinale, mais vraiment la première. L'autre fois, c'était un peu... Oh, si, c'était une belle première midinale aussi, d'après Kermesse. Mais là, on est revenu dans nos studios. Alors aujourd'hui, on a qui ? On a qui ?
Moi, c'est Nico.
On a Nico.
Moi, c'est Kat, salut.
Alors, je dis bonjour Nico, bonjour Kat.
Moi, c'est Thibaut.
Salut Thibaut. Et puis, bah, à la technique, ça va être moi pour aujourd'hui, c'est Seb.
Salut Seb.
Salut.
Salut. Et alors, bonjour à tout le monde. Et alors, je vais juste vite fait présenter de quoi on va parler aujourd'hui. Dans la revue de presse, moi-même, je vais revenir sur un petit peu des déclarations de Macron concernant, premièrement, l'immigration. Et deuxièmement, ce qu'il a dit très récemment, il y a 2-3 jours, sur la pénibilité. Voilà. Ensuite, il y aura Seb qui va revenir sur l'histoire de Rouen, là.
Lubrizol.
Le Lubrizol et le traitement médiatique qu'il y a eu sur cette affaire-là. Il y a Pierre qui va arriver aussi dans la midinale et qui nous causera. Puis dans un deuxième temps, dans la partie s'informer autrement, nous parlerons plutôt d'une thématique environnement, écolo, etc. Avec Thibaut qui va nous parler des forêts, du temps des forêts, un documentaire qu'il a vu récemment et il va nous en causer. On va aussi causer avec Kat de l'histoire des algues vertes. Il y a une super BD qui est sortie récemment. Et moi aussi, je vais un petit peu causer de cette thématique. On écoutera une femme politique qui est plutôt intéressante et qui essaye de relier tous les discours qu'on entend sur la catastrophe, réchauffement climatique, et qui essaye de repolitiser tout ça. Voilà, on va causer de tout ça. Et c'est parti, mon kiki.
Mais ouais.
Ouais. Bah, c'est moi qui commence alors.
Ouais, tu lâches plus le micro.
Ouais, du coup moi je voulais juste revenir sur les débats qu'il y a eu autour de la question migratoire, comme on dit dans les milieux autorisés. C'est avec une des déclarations de Macron récemment. Et alors là, c'est le 16 septembre, devant sa majorité. Il a parlé de politique migratoire en disant qu'il fallait vraiment s'attaquer à cette question, aux questions de sécurité et d'immigration. Donc il lit déjà directement les deux questions. Alors en fait, moi ce qui m'énerve dans cette histoire, c'est d'une part, c'est présenté après comme les médias comme étant la question centrale de notre temps, la question centrale politiquement. On est déjà dans une espèce de pré-campagne qui veut nous faire croire qu'il y a deux camps qui comptent en France. Le camp de la majorité, le camp du gouvernement, le camp du président, qui serait le camp, on va dire, raisonnable, qui n'a pas de tabou, qui va s'occuper des questions sans complexe, etc. Et puis, de l'autre côté, il y a le grand méchant, il y a l'ennemi... L'ennemi numéro un qui est le Rassemblement National. Alors certes, c'est des ennemis, hein, c'est des ennemis politiques, le Rassemblement National, mais en fait ce traitement médiatique qui avalise complètement le discours gouvernemental, en fait, qui avalise en fait la vision qu'ont les dominants actuels, en nous présentant d'un côté, il y a les progressistes, c'est-à-dire Macron, c'est-à-dire... Le groupe En Marche, c'est-à-dire le gouvernement, etc. Et de l'autre côté, il y a l'extrême droite. Eh ben, en fait, ça simplifie vraiment bien les choses. Ça nous martèle en tête. Votez pour nous, en fait, déjà, 2 ans avant. Votez pour nous, nous sommes les seuls capables d'arrêter le Rassemblement National. Nous sommes les seuls capables, la seule force capable de contrer l'extrême droite. Donc déjà, en fait, on est dans un pré-lavage de cerveau. Qui va nous marteler ça en tête pendant 2 ans, je pense. Voilà. Et du coup, c'était juste ça, moi, qui m'énerve, parce que après les déclarations de Macron, en fait, on sait que c'est de la communication, c'est du blabla. Il n'y a pas de problème migratoire, on est dans un faux problème depuis des années. Il n'y a pas de submersion migratoire, on entend ce terme-là, en fait, aussi à longueur de journée. Dans certains milieux militants aussi, hein, on peut l'entendre, comme que ça serait la grande question. Il y aurait une submersion migratoire. Et là, alors là, dans ce qu'a dit l'autre jour Macron, il dit par exemple, il y a un recours abusif aux demandes d'asile. Il y aurait des réseaux qui en profiteraient en fait de ce dispositif d'asile et qui instrumentalisent la demande d'asile. Donc pareil, c'est une vision quand même assez particulière des choses. C'est une vision quand même qui évite de parler vraiment des questions sociales, politiques, dans quel monde on vit. Pourquoi il y a des gens qui sont dans la merde et qui doivent quitter leur pays? Comment on accueille ces gens-là? Ben non, en fait, d'entrée de jeu, la question, c'est, on va dire, c'est la stigmatisation, la criminalisation,
C'est
chiant à dire.
Hey, j'ai remarqué qu'il y a des mots durs à dire pour toi ce matin comme Rassemblement National, c'est chaud aussi.
Ah, excusez-moi. Mais bon, en fait, rendre criminel, mettre dans une position de potentiel criminel les gens qui viennent en France, les demandeurs d'asile, les sans-papiers, etc. Donc c'est vraiment une vision, pour moi, en fait, qui avalise une espèce de racisme d'État sans le dire. Mais c'est depuis 30 ans, en fait, la tendance du gouvernement qui se sert de l'épouvantail du Rassemblement national, du Front national d'avant, pour continuer des politiques dégueulasses. Rappelons quand même que les CRA, centres de rétention administrative, dans la réalité, c'est vraiment un fonctionnement dégueulasse. On emprisonne des gens parce qu'ils sont étrangers. Et les gens, c'est des mères de famille, des enfants, etc. Donc après, tout ce blabla, c'est la grande question, nous n'avons pas de tabou, etc. Il y en a marre, voilà.
D'ailleurs, ce truc de « il n'y a pas de tabou », là, il n'y a pas que En Marche, en fait. C'est dans la France insoumise, on entend aussi certains discours comme ça. Il faut parler des vraies choses, ou je sais pas comment dire.
Il faut avoir un discours de vérité, oui, voilà. Etc. Bon, voilà, conneries. Et ce qui est très énervant, après, c'est le traitement médiatique. Hein. Tous les chiens et chiennes de garde, en fait, qui maintenant n'ont qu'un seul rôle, c'est de relayer la parole des gouvernements sans aucune critique, sans aucun questionnement. Alors après, ça pose question sur comment on fonctionne, en fait, c'est les médias. Bon, en fait, de plus en plus, il y a une concentration des médias sur quelques groupes. Et voilà, ils font pas un travail de journaliste, ils font un travail de journaliste de préfecture, comme disait je sais plus qui, c'était dans Le Monde Diplo, j'avais vu cette expression. Voilà, c'est les nouveaux policiers de la pensée. Hein. Voilà. J'en profite pour vous conseiller un livre vachement intéressant qui se trouve dans les réseaux des bibliothèques de Brest. Hein. J'en profite. Hein. Wow.
Voilà. Vas-y.
Ce livre est d'Olivier Lecourt-Grandmaison. Donc c'est un chercheur sur les questions de l'histoire coloniale. Ce livre, il s'appelle « Coloniser, exterminer ». Il revient sur la guerre d'Algérie et les traces politiques, idéologiques que ça a laissées jusqu'à aujourd'hui. Rappelons que à la fin du quinquennat de Sarkozy, il y a une loi qui est passée et qui, en gros, dit que la colonisation a eu des aspects positifs globalement. Voilà, c'est passé comme ça, fin du quinquennat de Sarkozy. Aucun problème, en fait, ce que l'État français a fait depuis le milieu du 19e siècle jusqu'à aujourd'hui, jusqu'aux indépendances, soi-disant, entre guillemets. Fausse indépendance, hein, parce que derrière, il y a les réseaux africains qui verrouillent et tout. Voilà. Donc globalement, ça a été positif. Alors ce livre, il nous rappelle en fait la réalité des choses. Hein. Il nous rappelle que, lisez-le, c'est incroyable, la guerre d'Algérie, donc en fait la colonisation de l'Algérie à partir de 1830-35, dans ces années-là, c'est une expérience, c'est tout bonnement un truc horrible qui va préfigurer presque les grandes catastrophes qui auront lieu au XXe siècle, quoi. On expérimente des méthodes d'extermination de la population civile, avec des méthodes, par exemple, comme l'enfumage. Donc c'est-à-dire, en fait, on chasse les habitants d'une ville, d'un village, on les pousse à se réfugier dans le désert ou dans des coins où ils n'ont aucune ressource. Souvent, du coup, ils se retrouvent à se réfugier dans des grottes. Et c'était quoi la technique préconisée par l'armée française et par l'État français et par les politiciens de tous bords ? L'enfumage. C'est-à-dire, on bloque les issues de cette grotte et on enfume. Et en fait, cette pratique-là, elle était considérée comme normale. Donc voilà, c'est un exemple pour vous dire de l'abomination que ça a été la colonisation de l'Algérie, mais pas que de l'Algérie, après de tout le Maghreb, etc. Donc voilà, lisez ce bouquin, Coloniser, exterminer, il remet les choses à leur place.
Très bien. Tu voulais, t'avais encore quelque chose à nous dire sur Macron ?
Ouais, alors c'est parce que, alors là, c'est un autre grand truc bien dégueulasse qui passe dans les discours comme ça. Macron. Alors là, c'est très récent, c'était jeudi 3 octobre, donc la semaine dernière. Donc Macron, alors je ne sais plus si c'était à l'occasion d'une invitation devant les médias. Là, ce que je vais vous lire, c'est l'article d'un site qui s'appelle Frustration, qui se présente comme faisant de la critique sociale.
C'est la revue Frustration, non ?
Ouais, la revue, excuse-moi. Donc ils reviennent sur une déclaration de Macron qui, le jeudi 3 octobre, a dit concernant le travail, voilà ce que dit. Alors je cite Macron. « Moi, je n'adore pas le mot de pénibilité parce que ça donne le sentiment que le travail serait pénible. » Et en fait, moi, quand on entend ça, on a l'impression d'une espèce de tentative de nier la réalité. En niant le mot, on va nier la réalité. Je considère que le travail, en fait, n'est pas pénible, mais en fait, il est épanouissant, etc. Du coup, la pénibilité, ça n'existe pas. Du coup, n'en parlons pas. L'article de Frustration, il s'appelle « La pénibilité au travail expliquée aux bourgeois ». Moi, je le trouve très, très bien. Je vais vous le lire en partie parce que je suis en grande partie carrément d'accord avec ce qu'ils disent. Parce qu'il ne faut pas laisser passer une phrase comme ça. On est vraiment dans une espèce de bourrage idéologique qui nie tout simplement ce que vivent beaucoup de gens. C'est-à-dire, ils vivent des conditions de travail dégueulasses, pénibles, dures, difficiles. Voilà. Donc Macron, une fois de plus, insulte notre bon sens et nie la réalité de nos vies. Notre bon sens parce qu'il a une fois de plus prononcé une phrase contradictoire et illogique. Évidemment que le terme de pénibilité a été créé pour donner le sentiment que le travail est pénible. Et il l'est dans de nombreux cas. Navré si ce fait s'entrechoque avec l'idéologie bourgeoise du président de la République qui défend une conception du travail intrinsèquement émancipatrice et sourde de bonheur et de joie. Alors dans un premier temps, nous, on pourrait dire « mais oui, il faudrait que le travail soit émancipateur ». Sauf que chez Macron, cette conception-là, elle va de pair avec une conception de la classe bourgeoise qui, en fait, le bonheur et la joie et l'émancipation ne profitent qu'à sa classe et ses amis. Il rajoute, donc c'est Macron là qui est cité, « Mais il y a des conditions de travail qui ne sont pas les mêmes, il y a des risques au travail qui ne sont pas les mêmes. » Ok, mais après, en fait, on va bien voir ce qui va se passer dans la réforme des retraites, dans la réforme de l'assurance chômage, etc. Je pense qu'en fait, là, il le glisse ça comme ça, mais concrètement, ça ne sera pas pris en compte, puisque pour lui, il n'y a pas de pénibilité au travail. Alors, donc en fait, ce qui est dingue, c'est qu'il ne veut pas du mot pénibilité. Donc là, je cite l'article de Frustration. Il l'avait déjà dit durant sa campagne, de façon encore plus claire. Macron, je cite, « Je n'aime pas le terme de pénibilité, donc je le supprimerai, car il induit que le travail est une douleur. » Idéologiquement, on est dans un matraquage. Hein. Mais ce qui est fou, c'est ça, cette phrase. « Je n'aime pas le terme de pénibilité, donc je le supprimerai. » Bah, c'est l'ordonnance du roi, quoi. Ouais. Je supprime le mot, et du coup...
Jupiter, s'il te
plaît. De Jupiter. Du coup, je vais supprimer la chose, je vais supprimer le problème. Et voilà, on n'en parle plus. Je vais m'arrêter là, mais c'est juste que, voilà, c'était important de revenir sur cette déclaration-là, qui est très récente, hein, Là, on est dans un contexte de réforme des retraites et de réforme de l'assurance chômage qui va encore plus précariser une grande partie de la population et surtout les gens qui sont déjà dans des situations bien, bien dures, les femmes isolées, les gens précaires, à mi-temps, etc. Donc juste dire que la réalité aujourd'hui, c'est que le travail est subi pour une grande partie et le travail est très pénible. Voilà.
J'avais une petite... c'est du bois, là. J'ai pris ta chronique en route, Nico, et je suis arrivé.
Bonjour.
Ouais, salut tout le monde. Ouais, ça me faisait réagir, parce que cette petite phrase là de Macron, là, encore une... Moi, à chaque fois, bon, ce que t'as raconté, Nico, ce qui est raconté par la revue Frustration, je trouve ça cool. C'est... Il y a un débat... Enfin, il y a des trucs à rappeler là-dessus. Mais en fait... je pense pas vraiment que ce soit pour affirmer quelque chose dans un débat qu'il y a des petites phrases comme ça de Macron qui sont reprises après dans tous les médias. Enfin voilà, tout ça fait partie d'un plan de com. Et il y a deux trucs qui me gênent là-dedans. C'est déjà, on assez général perd du temps à reprendre Macron sur chacune de ces petites phrases. Et le deuxième truc, c'est que c'est ce que tu disais, quoi. Pour moi, il y a une offensive idéologique assez claire, en fait, où il n'y a pas de débat, hein, sur le travail. C'est le travail, c'est bien, en gros. Enfin, pour résumer, toute critique de le travail, c'est bien, ça ne va pas le faire. Donc, c'est plus sur ce plan-là, quoi, qu'il faut se défendre, attaquer, j'en sais rien, mais... et dans ce plan-là, les petites phrases, on s'en fout. C'est ce qu'il est en train d'appliquer Macron de manière générale, quoi. Et bah, idéologiquement, c'est ça. Le travail, c'est bien. Et tu peux t'engueuler avec ton voisin, en fait. Là-dessus, pas besoin d'attendre la phrase de Macron ou machin. Il y a une fracture dans la société autour de ça. Et il joue là-dessus. Et comme, enfin, ça rejoint des trucs que tu disais au début, cette fracture-là, par exemple, elle met de côté tout ce qui n'est pas macroniste ou lepéniste, ou gauche, enfin, gauche entre guillemets, SOCDEM, enfin, disons, gauche classique, traditionnelle, type France Insoumise ou Parti Communiste, quoi, pour qui le travail, c'est bien aussi. Et faut être conscient, quoi, enfin, il va en faire des petites phrases comme ça. Il y a une offensive globale, idéologique, où il y a le travail, mais ce week-end, il y avait aussi la manif pour tous, amplifiée dans tous les journaux, toujours du journalisme de préfecture, mais encadré par un SO, on dirait des gars de la BAC, quoi, en gros. Et en même temps, voilà, tout ce débat, soi-disant, sur l'immigration, machin. Bon, on connaît ça dans le coin, c'est travail, famille, patrie. Et le travail, là-dedans, ça va être dur. Et on n'est qu'au début. Hein. Au départ, c'était présenté comme le jeune ministre de l'économie brillant qui allait redémarrer l'économie. En fait, on a vu que pour redémarrer l'économie, il fallait faire la loi travail sous Valls, et puis c'est travail et ferme ta gueule, quoi. Et ça continue. Après, il a été élu président avec toute la force qu'il y a de médias, de propagande autour de lui. Et ça va continuer comme ça, être de pire en pire. Et en vrai, hein, t'as des gens... Ça, t'as pas besoin d'attendre les petites phrases. T'as des gens, et aujourd'hui, ils sont convaincus de manière assez fasciste, tu vois. Enfin, ils réfléchissent pas que le travail, c'est bien. Et si t'as la moindre critique là-dessus, c'est que t'es une merde, un sous-humain ou...
Un feignant.
Ouais, mais feignant grave, quoi, tu vois.
Ouais. Non, bah après, c'est un prétexte pour parler de l'idéologie macroniste, quoi, qui est l'idéologie capitaliste bourgeoise. Les petites phrases, on s'en fout un peu, mais en fait, ça fonctionne aussi comme ça. Malheureusement, depuis des années, on retient des petites phrases qui sont des espèces de slogans réducteurs, hein, de la pensée. Mais juste là, sa phrase, elle nie quand même une grande réalité vécu par les gens, quoi.
Et c'est ça que je voulais dire, c'est que c'est un slogan, quoi. Voilà. Donc il faut le prendre comme un slogan politique, pas forcément beaucoup lié avec la vérité, quoi.
Ouais. Je peux rajouter un truc par rapport au début là sur l'immigration. C'est juste aussi, j'ai parlé des CRA, donc des centres de rétention administratifs. En fait, ça me fait penser à un autre bouquin que j'ai lu de Balibar. Alors Balibar, c'est un philosophe marxiste, on va dire. Et j'ai lu cet été un bouquin qui revient, il s'est intéressé à, on va dire, la constitution de l'Europe. Qu'est-ce que ça signifie aujourd'hui l'Europe ? Il y a un passage qui est super intéressant, et il reprend un concept de Deleuze, micro-fascisme. Où Deleuze, il disait, on ne vit pas vraiment dans une société fasciste comme il y a eu en Allemagne ou en Italie dans les années 30-40. Mais il y a des petits espaces, en fait, dans cet ultra-libéralisme généralisé, où on peut parler de micro-fascisme. Et Balibar reprend ça en disant, par exemple, les CRA. Et ben là, en fait, c'est des espaces où, par exemple, les policiers, les forces de l'ordre qui travaillent là-dedans sont hors loi presque, et peuvent se permettre des comportements comme on pourrait apparenter à des camps d'extermination, des camps de concentration, où on est, voilà, les gens qui sont dans ces camps-là sont traités comme des sous-humains, quoi. Alors voilà, c'est pas vraiment le fascisme tel qu'il a existé, mais c'est des espèces de poches où en fait où la réalité pour les gens qui sont parqués dans ces endroits-là, ils sont soumis à un traitement complètement inhumain qui est notre réalité, hein, aussi, quoi.
C'est notre réalité, enfin à chaque fois qu'on parle des CROM, j'ai envie de rajouter aussi, c'est notre réalité, disons, sur le territoire français, quoi. Mais c'est juste une petite expression d'un problème plus grand, disons, enfin d'un des enjeux du temps, quoi. C'est l'immigration due aux guerres, du capital, hein, due au dérèglement climatique, du capital aussi. Et vraiment, les CRA, c'est atroce, tu vois. Ça, ce que dit Deleuze, en gros, c'est que des bouts de société fasciste sont possibles dans la société néolibérale, quoi, sans qu'elle soit prise dans son ensemble, vue comme un fascisme, en tout cas. Mais t'as des trucs genre tout ce qui s'organise pour que les migrants n'arrivent pas en Europe. Donc c'est les camps en Libye, par exemple, où là, tu vois des choses qui sont vraiment de l'ordre du camp de concentration, de ce qu'on a pu voir en Europe, dans les camps de concentration nazis. On parle même plus d'humains, quoi. Tu vois, on parle de migration, et donc il faut empêcher la migration. Et après, ce qu'ils en font en Libye pour les empêcher de migrer, on s'en fout un peu, quoi.
Ouais, non, mais... Et ce qui est intéressant, c'est la politique européenne aussi qui s'externalise, on va dire. Et les camps, maintenant, ils ont lieu en dehors des frontières de Schengen, donc en Libye, mais aussi avant l'arrivée en Grèce, en Turquie, tout ça. Et en fait, on entend parler, là, depuis quelque temps, en tout cas, moi, j'ai vu ce terme-là, ethnocide, ou xénocide. C'est plutôt xénocide. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce terme-là. Et pour dénoncer, en fait, la situation dans laquelle on est, là, dans laquelle sont beaucoup de gens qui essayent de se barrer de situations de guerre, etc., on parle de xénocide, quoi. Là, l'Union européenne, la France en particulier... traite les gens de façon inhumaine, et on peut parler de xénocide, c'est-à-dire une espèce de génocide lié sur le fait qu'on est étranger, quoi. C'est ça que ça veut dire. Balibar, lui, il parlait déjà il y a 10 ans d'apartheid européen. La communauté européenne est en train de créer un apartheid, et du coup voilà, racisme d'État, hein, voilà, c'est ça, hein. Bon, voilà, comme quoi, je pense qu'il y a des lectures de philosophes qui peuvent nous aider aussi à comprendre la réalité. et parler, quoi, mettre des mots, essayer de mettre des mots et des concepts sur la réalité, ça peut nous aider à prendre conscience de ce qui se passe, quoi, tout simplement, quoi. On a parlé des crimes, mais on peut parler aussi de ce qui se passe quotidiennement dans les prisons, voilà, etc. De ce qui se passe aussi. Maintenant, en fait, il y a une forme de contrôle sur qui n'est plus seulement aux frontières, mais qu'on va retrouver dans les gares, dans les aéroports. Voilà, il y a des interventions quasiment toutes les semaines dans ces lieux-là, quoi, qui sont au cœur de nos villes, quoi. Voilà.
Bien, j'en profite, on parlait de pénibilité, on a eu un petit message sur notre compte Facebook de Didier Como qui nous dit, déjà il nous salue, que si Macron veut supprimer la pénibilité au travail, il ne pourra pas supprimer la souffrance au travail due au pouvoir de la hiérarchie sur le travailleur. On est d'accord.
J'ai terminé.
Ok. Seb, tu nous as préparé un petit sujet sur le... Pour revenir sur l'affaire ou, je sais pas, la catastrophe industrielle à Rouen et le traitement médiatique qu'il y a eu autour.
Ouais, sur le traitement médiatique en particulier, parce que c'est quelque chose qui m'a rendu un peu fou depuis une semaine. Moi, j'aime bien regarder les médias traditionnels pour voir comment ils traitent, comment ils informent la plupart des gens dans notre pays. Et autant on a pu, le jour de la catastrophe, bon, bah, y a eu toutes les unes, toutes les chaînes, de tout, qu'on parlait de cette catastrophe, sans rentrer trop dans le détail, puisqu'on n'en avait pas encore. Qu'après, il y a eu d'autres événements médiatiques qui ont un peu couvert.
RMP, Chirac.
Ouais, voilà, justement y venir. Et donc, qui a totalement obstrué, on dit, l'information sur Lubrizol, alors que je pense qu'on vit quand même une catastrophe assez importante qui mérite d'être couverte beaucoup mieux, plus, enfin bref, que ça. Et donc je suis allé faire mes petites recherches, et en fait il y a un autre sujet qui m'avait fait que j'ai vu, c'est quand ce week-end sur France Info Télé, là, je vous le passerai tout à l'heure, c'est dans leur émission Vrai ou Fake, où justement ils se posaient quand même la question de est-ce qu'ils avaient traité ça correctement ou pas, machin. Je trouvais ça enfin intéressant qu'ils fassent un peu d'autocritique. Mais j'ai d'abord trouvé, je vais vous faire écouter ça pour nous lancer sur ce débat, petite chronique de Bruno Donnet sur France Inter qui parle aussi un peu de cette couverture médiatique. Donc je vous lance ça. Quand j'aurai retrouvé le bouton.
Cette semaine, Bruno Donnet, vous vous êtes intéressé à la couverture médiatique de l'incendie de l'usine Lubrizol et ça vous a fait un peu tousser ?
Oui, Sonia, fumée noire cette semaine au-dessus de mon tube cathodique car j'ai trouvé nos camarades journalistes particulièrement en forme et spectaculairement gonflés, surtout mardi, le jour où, comme dans le 20h de France 2, ils se sont pas grattés pour nous poser cette question.
L'exécutif a-t-il pris cet événement à sa juste mesure ?
L'exécutif a-t-il pris l'incendie de Rouen et ses 5253 tonnes de merdasse chimique dispersées dans l'atmosphère à sa juste valeur ? Une question que j'ai trouvée très audacieuse car, à titre personnel, je me demande plutôt si on n'aurait pas mieux fait de se demander si les journalistes ont vraiment pris la mesure de l'événement et s'ils n'ont pas, eux aussi, totalement foiré le traitement qu'ils ont choisi de lui accorder. Alors pourquoi est-ce que je vous dis tout ça ? Eh bien tout simplement parce que dimanche, alors que nous étions quand même 3 jours après l'incendie et que l'inquiétude était immense dans toute la région rouennaise, j'ai eu la très mauvaise idée de regarder le 19h45 sur M6. Mauvaise pioche, car sur les 20 minutes qu'a duré ce JT, je n'ai pas vu l'ombre d'un reportage consacré à Rouen. J'en ai bien vu un sur les Grandes Marées.
Tout le long de la digue de Saint-Malo aujourd'hui, se tenait un défilé de cirés et de bottes en caoutchouc.
Un sur la Fashion Week et un sur un salon qui avait l'air épatant.
Le salon de l'optique à Paris.
Mais rien, strictement rien sur Rouen, ou plutôt si, une brève, une trentaine de secondes, qui mentionnait une déclaration du Premier ministre et qui se terminait comme ça.
Les écoles fermées vendredi doivent rouvrir demain après avoir été nettoyées.
Voilà alors toutefois la vraie raison pour laquelle les fins limiers du JT de dimanche ne se sont pas rendus à Rouen. C'est pas le salon de l'optique ou les vagues géantes, c'est bien sûr la disparition de Chirac qui les a conduits à consacrer quasiment toutes leurs forces sur ce seul événement et à choisir une ligne éditoriale qu'on pourrait résumer en musique.
Photons Jacques Chirac.
Alors choisir de causer de la mort de Chirac, c'était incontournable et ça méritait incontestablement l'ouverture des journaux et un temps d'antenne conséquent. En revanche, je voudrais poser ici deux questions. 1. M6 était-elle vraiment obligée dimanche, alors qu'on nous avait déjà longuement tout dit de la dimension du personnage et de l'émotion que sa disparition avait suscité dans le pays, obligée d'envoyer un reporter en Corrèze plutôt qu'à Rouen pour rencontrer Loulou.
Loulou, son voisin et son copain de toujours.
Louis Joubert, 93 ans, un ancien boucher un peu caramélisé qui nous en a appris une bien bonne sur son voisin.
Il ne pouvait pas rester en place, il fallait aller à droite, il fallait aller à gauche.
Ouais, excellent, excellent résumé de sa carrière politique et qui nous a régalé d'une anecdote impérissable.
Un jour, j'ai donné un beefsteak qui était un peu raide. Il n'a pas pu le manger, il me l'a ramené avec l'assiette.
Super. Et deux, est-ce que quand on a passé des plombes à donner la parole au boucher de Chirac, à son teinturier ou à son garagiste, au lieu d'aller poser sa caméra à Rouen pour y montrer l'ampleur de la catastrophe et l'inquiétude de la population, on peut vraiment se contenter de concentrer ses critiques sur le gouvernement? Ouais. Je vous laisse méditer sur ce paradoxe un rien abracadabrantesque et j'invite tous ceux qui nous ont copieusement pris pour des poires cette semaine à aller manger des pommes à Rouen.
Vive la République et vive la France.
Merci Bruno Donnet.
Bon, je crois qu'il nous avait fait une bonne chronique, moi j'avoue, bon j'ai un peu rigolé, mais c'est exactement ce qui se passe, on préfère nous abreuver d'informations inutiles, divertissantes, plutôt que de parler des vrais sujets, comme d'habitude, quoi. Je veux dire, l'affaire Lubrizol, elle montre encore d'une façon plus forte comment on traite ça. Bon, il y avait eu Tchernobyl, hein, ça n'avait pas été mieux traité en France, on recommence presque, ben non, presque pas, 30 ans après, quoi. On y est. Et donc ouais, moi j'étais bon bah comme tout le monde, je sais pas, il y en a peut-être beaucoup qui s'intéressent au sujet, peut-être de plus en plus, surtout dans cette période où on s'intéresse de plus en plus à l'environnement. Et donc je suis tombé aussi sur cette autocritique, on pourra peut-être commenter, je vais voir, je vais peut-être pas couper les micros pendant l'autocritique de France Info, parce qu'on pourra peut-être faire des pauses dessus et rebondir un peu. Parce qu'il s'autocritique, mais j'ai l'impression que des fois, il se dédouane un peu quand même, tu vois. Il, oh là, oh, mais nous, bon, ils avouent pas trop qu'ils font de la merde, en gros, quoi. Ils en parlent un peu, mais bon, c'est une émission que tu vois pas souvent, je veux dire. Moi, je l'ai vue, elle était à 22h. Apparemment, elle était diffusée à 16h dans l'après-midi, mais que des heures de grande écoute, quoi. Et c'est des sujets qui mériteraient d'être balancés aux 20h pour qu'ils fassent leur mea culpa. Donc on va commencer le début et à écouter le début, puis je laisse les micros ouverts, comme ça on peut rebondir et je suis prêt à faire des pauses.
Alors est-ce que c'est vrai ce qu'elle nous dit Anne-Sophie Pelletier?
Pour le savoir, ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à nos confrères de l'INA nous filer un coup de main parce qu'ils ont un outil qui permet d'analyser très précisément les flux d'informations. Donc on allait regarder comment avaient couvert ces deux événements les quatre chaînes d'informations française, et je vais vous montrer comment on l'a couvert. Alors, on va commencer par la journée du jeudi. Et là, c'est très intéressant parce que vous le voyez, à partir de 11h58, on a l'annonce de la mort de Jacques Chirac. Et effectivement, c'est un rouleau compresseur. Les autres informations disparaissent, y compris l'incendie de Rouen. Mais regarde.
Alors, je fais une première pause parce que quand j'ai vu le graphique, là, c'est pas radiophonique, on voit vraiment des courbes qui s'inversent totalement. L'information de Lubrizol, qui est au top au départ, avant la mort de Jacques Chirac, tombe carrément en bas. Enfin, la courbe tombe complètement. Et alors, celle de Chirac monte au plafond. Il n'y a plus que ça. Tout est occulté, quoi.
Regardez ensuite, dans les jours suivants, c'est assez différent. Vous allez le voir, là, la machine médiatique se rééquilibre. Et on voit très bien que Chirac reste le premier titre, parce qu'il y a tous les hommages à Jacques Chirac, on est obligé de les traiter, mais le deuxième titre redevient l'incendie de Rouen.
Et... Alors, là, je le coupe. Parce que déjà, la façon dont ils présentent les courbes au public, la première fois, on a une courbe en ligne avec le traitement des deux infos, Jacques Chirac et Lubrizol. Et là, ils nous montrent un histogramme, donc déjà, c'est plus la même forme du graphique, histoire de perturber un peu le téléspectateur. Et on voit 5 barres, donc une barre d'histogramme par jour du mardi au samedi, où effectivement, à partir de la mort de Jacques Chirac. Et on voit qu'il y a 90-95% encore des infos données, c'est sur Jacques Chirac. Lubrizol est à 5. Et quand il dit là, ça se rééquilibre, ou ça y est, Lubrizol, machin, bidule, mais en fait, c'est que des conneries. Quand on regarde bien la barre du jour qu'il commente, il y a toujours plus de Jacques Chirac. Alors, c'est vrai que ça s'équilibre sur cette journée-là. Lubrizol reprend un peu, je ne sais pas ce qui s'est passé ce jour-là, c'était, je ne sais plus. On vous mettra ça en détail dans l'article, on pourra vous mettre les histogrammes que j'extrairai de la vidéo. Et donc ça se rééquilibre, mais sur une journée, quoi, vite fait. Et dès le lendemain, boum, ça repart sur Chirac, c'est déjà fini. Enfin, on a l'impression que... Mais bon, la façon dont il dit, ouais, ça y est, là, on reprend le dessus, que nenni.
Une dernière chose qui me semblait important de préciser. Je voulais aller voir ce que pensaient les réseaux sociaux. Comment ça avait été traité par les réseaux sociaux? Donc, on a regardé avec Lina comment ça avait été traité sur Twitter. Et regardez, c'est intéressant, parce que sur Twitter, ça s'est rééquilibré plus rapidement encore qu'à la télévision. Au début, c'est comme à la télévision, on le voit, les discussions s'engagent majoritairement sur la mort de Jacques Chirac. Mais dès le samedi, Twitter, on va dire, switch et se remet à parler des incendies de Rouen. Donc on peut légitimement se demander si, en tant que chaîne d'information, on n'aurait pas dû regarder davantage les discussions qu'il y avait sur les réseaux sociaux, et peut-être que ça nous aurait amené à revenir plus rapidement sur l'incendie de Rouen.
Eh bien juste...
On peut se demander d'ailleurs s'il faut toujours continuer à regarder les grands médias plutôt que d'aller sur les réseaux sociaux. Parce que c'est vrai que la courbe, là, à partir du samedi, ça se rééquilibre sur Twitter et ça tient.
Bah là, tu peux pas. Enfin, il y avait certains exemples qui étaient assez effarants. Si tu voulais des photos, par exemple, de ce qui s'est passé, des images, qu'est-ce que ça donnait dans le jardin des gens, machin. Mm-hmm. T'avais rien dans les médias.
Hein. Ah ouais, non, là, c'est que les réseaux sociaux.
C'est que les réseaux sociaux.
Ouais, ouais.
Et on peut se demander quel type de travail il fait, le gars qui parle, parce que c'est un gars de France Info. Hein.
Ouais.
Du coup,
il défend sa paroisse quand même un peu, quoi. Évidemment, il va pas aller dire aux gens, nous, on traite mal les. Enfin, tu vois, il dit. Nous, on aurait dû aller voir plutôt sur les réseaux sociaux pour. Mais mec, tu te bases sur quoi? Sur les dépêches AFP ou sur les réseaux sociaux, quoi, pour faire ton traitement de l'information, quoi. C'est.
En fait, c'est comme si il disait bon, ok, on aurait pu traiter plus l'affaire de Rouen ou autre chose. Mais en fait, en même temps, il dit on est obligé de suivre tout ce qui se passe, etc. Et voilà, il parle d'obligation. Ouais. Mais en fait, on peut juste se poser la question, mais c'est quoi être journaliste? C'est un peu choisir ce qu'on a envie de parler, d'avoir aussi un esprit critique. Mmh. Mais en fait, là, non, on est sur des courbes où il va suivre ce qui se passe sur les réseaux sociaux, etc. Très bien, hein, il peut le faire.
Ben après, ils l'ont pas fait, hein. Il l'a fait sans le faire en fait.
Puis là, il en parle un peu, mais du coup, après, c'est juste se dire, mais c'est quoi mon rôle, c'est quoi mon job, c'est de comprendre ce qui se passe, puis ou c'est juste de suivre le vent et d'essayer de faire de l'audimat.
Ouais. Bon, voilà. Et puis quand façon, il parle après, de, on est obligé, qui l'oblige, quoi. Hein, ouais. Ça pose la question aussi. Du coup, ça.
Il y a un truc quand même, j'ai continué vite fait hein, mes recherches là sur ces histoires de sites Céveso, machin. Il y a quand même un enjeu, c'est même deux enjeux sur quatre, en face d'un site Céveso, quoi, de ce qui est mis pour qu'est-ce qui se passe quand il y a un accident, ou voilà, pour que ça tue pas des gens, ou pour que ça en tue le moins possible. Il y a un objectif d'information du public. Qui est assuré bah, évidemment par les premiers concernés, normalement par la boîte en question, le préfet, les autorités éventuellement locales, le maire, ce genre de trucs, et par les médias. Et donc là, déjà, les gens là-bas n'ont pas été informés, ce qui est le principal. Mmh. Après, il y a informé de manière plus générale dans les missions, dans ce qu'il y a marqué dans ses plans et tout. Donc informer des gens qui sont pas à Rouen, mais qui pourraient avoir de la famille ou machin. Et ça n'a pas été fait. En fait, c'est toujours cette histoire de journalisme de préfecture. J'ai regardé un peu au fond, quoi. C'est quoi ces plans, machin? Bah, les plans de sécurité, que faire en cas d'accident, machin, tout ça est fait, grosso modo, sous la supervision et l'autorité des préfets. Sauf que ben, les gens dans la PQR, par exemple, dans la presse quotidienne régionale ou dans les trucs genre France 3 région, machin, ils sont habitués maintenant à demander au préfet ce qu'il faut écrire avant d'écrire. Sauf que là, le principal responsable probablement de l'accident, en tout cas si on les cherche dans le coin, c'est le préfet. Et donc, ils sont suspendus à la communication de crise du préfet et aussi du gouvernement, parce que bon, c'est un gros accident industriel, machin. Et du coup, ils savent pas quoi dire, mais du coup, ils informent pas les gens. Ils sont entre leur devoir d'informer, qui est décrit dans les plans d'urgence, machin, tout ça. Et en gros, l'envie de pas trop froisser le préfet, parce que si tu dis, si tu disais tout ce que tu peux imaginer comme conséquence sur la vie des gens, par exemple, bah, le préfet il va vite sauter, quoi. Et derrière le préfet, il y a toujours quelqu'un. Les préfets, c'est l'autorité directe des présidents de la République, donc c'est soit Macron, soit Hollande, soit avant encore.
On va revenir sur le préfet.
Ils sont coincés là-dessus, mais du coup, ils ne peuvent pas rendre leur mission de service public. Et c'est pareil pour les trucs genre France Inter, France Info, qui sont, eux, plus sur la communication gouvernementale. Mais de la même façon, ils ne peuvent pas communiquer avant d'avoir eu les infos de la préfecture et tout. Ouais. Les infos, ils pourraient les donner, hein. Il suffit d'envoyer quelqu'un et voilà.
Non, on va revenir sur tout ce qu'on... Parce que quand tu parles du préfet, des responsabilités, apparemment l'État, c'est une des recherches que j'ai fait, c'est beaucoup déchargé sur le préfet, que ce soit pour les autorisations. On en reparlera après, on va finir vite fait le petit sujet, quoi, et on va revenir dessus. Parce qu'on va continuer un peu de voir comment il s'autocritique quand même, c'est intéressant.
On va poser la question à Alexandre Cara qui nous rejoint. Alexandre Cara, directeur de France Info, merci beaucoup d'avoir descendu 3 étages pour venir sur le plateau de Vrai ou Fake. Bonjour. On l'a vu avec les courbes de Julien, Alexandre, l'incendie de Lubrizol a clairement été occulté, en tous les cas dans les premières heures. Est-ce que ce serait faire preuve d'honnêteté de dire qu'on s'est un peu trompé sur ce coup-là ?
Alors, je ne sais pas si on s'est trompé, mais une chose est sûre, c'est qu'on a beaucoup moins traité effectivement l'incendie de Rouen dans les premières heures qui ont suivi l'annonce de la mort de Jacques Chirac.
Je ne sais pas si on s'est trompé, directeur de France Info.
Alors, je vous explique pourquoi. D'abord, il faut savoir que la télé, c'est un média linéaire. Donc, à partir du moment où une information, surtout une information de cette importance arrive, elle chasse tout le reste. La deuxième explication, c'est qu'on a probablement sous-estimé à ce moment-là, l'importance de cet incendie. On est encore, je le rappelle, dans les premières heures de l'incendie, on n'a pas encore toutes les informations sur les produits, sur l'importance du drame et sur le nuage également qui va véritablement s'essaimer sur l'ensemble de l'agglomération avec les résidus. Donc c'est vrai qu'il y a probablement une sous-estimation de notre part. En tout cas, une chose est sûre, moi je vous le dis, c'est vrai qu'à ce moment-là, sur l'antenne télé, on sous-traite l'information de l'incendie de Rouen.
Il admet leur incompétence, là. Le gars, il est pas... ils ont sous-estimé le problème qu'une usine Seveso 3 est flambe avec plein de produits. Oh, on n'a pas fait gaffe, on ne savait pas trop. C'est quand même dingue, quoi. Et après, il avoue qu'il sous-traite, mais c'est... Enfin, moi, je trouve ça dingue.
La vraie question qui se posait, là, c'est est-ce qu'on n'a pas parlé de Chirac au lieu de parler d'une usine en feu. Enfin, voilà. Et ça, c'est aussi une vérité. Les médias, on les a laissés devenir comme ça. Donc ils sont comme ça, c'est-à-dire la nécro de Chirac, elle est prête partout. Tout le monde sait que ça va faire de l'audience parce qu'il a préféré ça, il a préparé sa meilleure nécro machin. Et s'il meurt à l'instant T, c'est ça qui va passer à l'instant T. Et on s'en fout. Les médias, leur mission d'information, ils s'en foutent, c'est l'audience. Et du coup, ça passera avant. Mais je veux dire, ça pourrait être une centrale nucléaire qui pète, serait pareil.
Ouais, malheureusement.
Ouais, parce que sur la mort de Chirac, ils sont prêts depuis des années. Hein.
Ouais, sur Rouen,
ça pour faire ce genre de reportage, je sais même pas, on peut parler de reportage, c'est du journalisme hagiographique. On va présenter le grand président comme un homme exceptionnel. Bah là, ils sont prêts, hein. Il n'y a pas de problème. Hein.
Ça, je suis d'accord, mais quand même, le gars, il le dit, on a peut-être sous-estimé. Mais je ne sais pas, il y a quand même un problème chez les journalistes où les mecs, ils doivent. Enfin, où ils sont pieds et mains liés, quoi. Ils ne peuvent rien faire. Tu vois, tu dois rebondir, tu dois te rendre compte que ce genre de catastrophe, c'est hyper plus important que la mort de Chirac. On aura le temps de reparler.
C'est des conneries. Oui, bah, sous-estimer, c'est des conneries, c'est sûr. C'est une catastrophe industrielle, évidemment, ça devrait. Et je veux dire, il y a un vrai enjeu à informer les gens. Donc un enjeu de santé publique. Donc ça devrait passer avant. Bah, ça c'est sûr. C'est une usine Seveso remplie de produits chimiques qui pètent. C'est sûr que c'est dangereux. Et pourtant c'est Chirac qui va passer devant.
Ouais. Là on finit son petit débat là.
Revanche, vous savez qu'il existe aussi franceinfo.fr. Donc on est sur le numérique. Et là quand on regarde toute la journée, c'est un média non linéaire, donc qui permet de donner des informations de manière différente. On se rend compte que l'incendie et la mort de Jacques Chirac sont traités, pas de manière équivalente, mais en tout cas de manière beaucoup plus équilibrée.
Alors, voilà, on s'en rend compte, on ne sait pas, c'est lui qui le dit. Je n'ai pas été vérifié, j'avoue, sur ces informations non linéaires sur franceinfo.fr. Mais nous, on est une radio, hein, c'est de l'information linéaire, ça ne nous empêche pas de traiter plus Lubrizol que Jacques Chirac, quoi. Enfin, je veux dire. Donc voilà, ça c'était pour la couverture médiatique. Bon, on pourra en dire longtemps, mais on continue ça, voilà, notre critique des médias traditionnels où on vous invite à continuer de nous écouter toutes les semaines, vous en saurez peut-être un peu plus, ou aller effectivement voir les réseaux sociaux ou des sites plus. Je pensais à lundi matin, parce que toi t'aimes bien Pierre, lundi matin. Et d'ailleurs, j'ai vu qu'ils avaient des retards de publication ce matin. Et c'était
ils
pas
sont
publié.
Pas trop, ils sont un peu quatrième sur l'info aussi.
Ouais, non, mais ils ont peut-être une excuse depuis une semaine, c'est qu'apparemment la plupart de leurs journalistes, enfin, en tout cas ceux qui traitent, ils sont habités Rouen. Et ce que j'ai vu sur leur site, c'est qu'ils ont pris leurs gamins, ils ont pris leurs valises, ils se sont barrés, ils ont pris un minimum d'informatique et du coup, ils avouent qu'ils vont avoir du retard sur les publications, quoi. Bon, une petite pensée pour eux au cas où. Enfin, je sais pas. Donc ouais, ça il y a le traitement de l'information par les médias. Du coup moi il y a des informations qui m'ont posé des questions, enfin il y a des questions que je me suis posées et des choses où j'ai pris peur en regardant les réseaux sociaux. C'était à propos de cette fameuse liste de produits qu'a brûlé dans l'usine. Et donc j'ai vu plusieurs informations passer. Il y en avait une qui était donnée par la préfecture, donc on en revient aux informations que donne la préfecture, où il y avait une liste de produits, comme tout ce qui était chimique, on va dire, les hydrocarbures et tout. Et il y avait une ligne où il y avait marqué « autre ». Juste « autre ». Alors ça, c'est une information pour le grand public, « autre ». On se dit, mais qu'est-ce qui se cache derrière ? Et j'ai vu passer un post Facebook que j'étais vérifié, que tout le monde peut vérifier d'ailleurs. Il suffit de se rendre sur le site du ministère de la Transition écologique et solidaire, quand même. Il y a un sous-menu qui s'appelle base des installations classées et on peut aller voir des infos sur Lubrizol Rouen. Et quand on tombe sur cette page Lubrizol Rouen, il suffit de compter 8 lignes, 9 lignes. Et là, il y a une ligne. Dans leurs activités, il y a écrit « radioactive ». Utilisation, dépôt, stockage, source scellée conforme. Donc, il y a du stockage de produits radioactifs dans cette usine.
Tu lis pas Check News sur Libération
Non, pas encore, moi.
Non, c'est bon, pour pas en envoyer du. Enfin, de ce que j'ai compris de l'histoire, hein, on n'a pas les infos, toujours. C'est le préfet qui donne les infos et le préfet qui est responsable, donc voilà.
C'est ça.
Mais il y a certaines machines de mesure qui utilisent des éléments radioactifs graves, hein, genre de l'iode 137 ou des trucs comme ça. Mais c'est pas un stock de déchets radioactifs ou de produits radioactifs. Il y avait quelques machines où il y avait quelques éléments radioactifs qui en plus n'ont pas brûlé. A priori, enfin c'est ce qu'ils disent, quoi.
Voilà, ça,
donc c'est ce
pas,
que racontait Check News, mais
on sait qu'il y a une ligne autre qui a brûlé, mais on sait pas quoi. Et bon, il y a quand même ça. Alors,
mais il y a assez d'éléments nocifs et cancérigènes qui ont brûlé pour.
Déjà, mais bon, on sait bien aussi, on connaît le traitement sur la radioactivité en France. Hein. Ça, on va pas te faire peur en plus. Donc, c'est des choses qu'on cache quand même. Donc, l'information donnée par le préfet ou le gouvernement se dit ouais, vous avez toutes les informations, on est transparent et tout. Bon, comme d'hab, la transparence a ses limites. Et donc, je voulais en revenir aussi tout à l'heure à ce que tu disais, Pierre, sur la responsabilité sur le préfet. Où on peut essayer de comprendre comment on en est arrivé là. Il y a deux lois qui sont tombées. Il y en a une qui était tombée en 2016, en fait, qui donne autorité à la préfecture pour donner les autorisations de modification des sites Seveso, d'ajout ou pas d'entrepôt, des choses comme ça. Donc ça, c'est la préfecture qui délivre Bon, on peut se demander sur ce, bah, vis-à-vis de ces sites-là, où est la compétence de la préfecture à dire ça ou ça, c'est dangereux ou pas, bah, jusqu'où ça va, quoi. Et il y en a une aussi qui est pas mal, c'est une loi de 2018. Donc, une loi où on voit tout de suite en première ligne où il y a écrit, en gros, c'est l'État au service d'une société de confiance. Donc, pour une société de confiance, cette loi, c'est une déréglementation complète qui bascule la responsabilité qui était avant à l'autorité environnementale. C'était elle qui délivrait, en fait, les autorisations, les choses comme ça, vers le préfet. Donc, tout retombe encore sur le préfet. Bon, alors après, le préfet, bah ouais, à la fin, il commence à avoir des grosses responsabilités. Mais je trouve que ça se décharge un max sur le préfet. Il va avoir un paquet de tâches, le préfet, à force. Hein. Entre ça, les violences policières, la totale, ça commence à faire beaucoup, quoi.
En fait, l'historique Seveso, là, c'est... Il y a une catastrophe industrielle, donc à Seveso, en Italie, et... On pourrait dire les pouvoirs publics ou les pouvoirs publics européens décident de réagir. C'est-à-dire que avant c'était géré comme ça aussi, hein. Soit par la chambre de commerce, soit par les communautés locales, donc type Brest Métropole ici, et les entreprises concernées, quoi. Mais sauf que t'as certaines, enfin voilà, les boîtes qui font des millions en gaz, en nucléaire, en pétrole, machin, si tu veux, tes communautés locales, c'est pas très compliqué de les corrompre, quoi. Et donc, corruption sur corruption, Seveso avait amené à... C'est un truc beaucoup plus petit, hein, mais à une catastrophe environnementale et au niveau de l'hygiène des gens, assez atroce. Et du coup, volonté européenne, en fait, d'amener une norme, quoi, sur les sites dangereux, parce qu'en gros, entre pays, ça peut, tu vois, si ça pète à la frontière allemande, ben, ça peut venir chez nous, machin.
Je crois que ça s'est arrêté à la frontière, moi, les...
Bah, sauf en France, mais les autres pays, on peut comprendre qu'ils aient eu envie de se protéger des conneries à côté. Voilà, la France a été un des pays qui a porté cette norme... avec des pays un peu plus sérieux comme l'Allemagne ou les pays du Benelux ou les pays du nord de l'Europe, mais donc face à son voisin italien, quand même, ça porte les Italiens, ils font une usine, tu sais, où vont les déchets après. Bon, c'était un peu ça l'idée, et du coup en France ça a été décliné, pour résumer, sous l'autorité de la présidence de la République, donc sous l'autorité des préfets. Et c'est une façon de faire qui est censée te t'isoler un peu de la corruption, quoi. Enfin, un préfet est nommé, quoi, donc il ne répond de rien. Sauf quand la corruption est à la tête de l'État, quoi. Mais effectivement, des préfets qui, sur les questions économiques ou de sécurité, ont reçu leurs ordres de Macron, puis avant de Hollande et Macron, parce que les deux lois que tu disais, c'est des lois de Macron, et puis avant de Sarko, puis avant de Sarko, ministre de l'économie, enfin bon, on peut douter du fait qu'ils ne se soient pas corrompus, et en fait, là, pour le coup, par le haut, quoi. Effectivement, les législations semblent s'assouplir depuis que la norme est née, quoi. De toute façon, bon. Du capital américain, là, comme on dit, l'usine, là, Lubrizol, elle appartient à Warren Buffett. Ça vient investir que si ça a les mains libres au niveau législatif, réglementaire, etc. Ouais.
Donc voilà, on est bien. Bon, allez, j'en ai fini là. Je vois aussi qu'on en est à une petite heure d'antenne déjà.
Et oui, peut-être qu'on fait une petite pause.
Ouais.
Alors, j'ai juste. Je vais passer un tout petit extrait de Brigitte Fontaine, interviewée par Raphaël Mesrahi. Et je crois ne pas me tromper, il va tomber juste à point. Si je me trompe pas de fichier, j'ai pas eu la possibilité de l'écouter. Et du coup, on va enchaîner sur une de ses chansons qui s'appelle Le Beau Cancer. Et puis après, je vais voir. On va voir qu'est-ce qu'on va vous faire écouter. On revient tout de suite après. Ok ? Je mets un petit extrait.
Alors, je finis ma phrase, s'il vous plaît. Vous me laissez parler. Je ne suis pas Jacques Chirac, ni Madame Claude, mais j'exige qu'on me laisse parler.
Oh, ma folie, mon beau bateau, mène-moi à Valparaiso. J'en ai assez du parc Monceau, de ses bassins, de ses jets d'eau, de ses enfants exaspérés, traînés dans la suie de l'été, et se noyer pour se noyer, la mer serait moins étriquée. Oh, ma folie, mon beau flacon, donne-moi d'étranges poisons, j'en ai assez du postillon, et des litrons, et des graillons, et des serveuses de café qui attendent d'être mangées. Et s'assommer pour s'assommer, il vaut mieux être foudroyé. Oh, ma folie, ma belle fièvre, mène-moi sur d'affreuses grèves. J'en ai assez d'air de sève, où les vieillards doucement crèvent dans l'indifférence et l'ennui, comme si ça n'était pas leur vie. Et se flinguer pour se flinguer, j'aime mieux les pestiférer. Recouvre-moi de fleurs de fer, de l'atelier de Lucifer. J'en ai assez des infirmières, de cette fondation Curie qui est le monde d'aujourd'hui. Et être cuit pour être cuit, il vaut mieux que ce soit joli.
Thank you.